RFI, il est 11h en temps universel, midi, ici à Paris, le journal.
Pierre Boudias.
Et le nouvel homme fort syrien appelle le peuple à descendre dans la rue. Abou Mouhammad al-Jolani entend célébrer la fin des sévices du régime de Bachar al-Assad. Vous entendrez un rescapé de la terrible prison de Saïdania dans cette édition. Emmanuel Macron ménage son suspense. Toujours pas de Premier ministre en France à l'heure actuelle, mais l'annonce est imminente. Nous serons devant Matignon dans cette édition, large page consacrée à l'actualité politique française. Et puis nous vous emmènerons sur un navire rare en fin de journal, un bateau à hydrogène fluvial mis en service au début du mois, un reportage en fin de journal. Abou Mouhammad al-Jolani appelle les Syriens à descendre en masse dans les rues ce vendredi. Le chef des rebelles du HTS entend ainsi célébrer la victoire de la révolution une semaine après la chute du régime de Bachar al-Assad. La fin d'une dictature sanglante qui a jeté au moins 1 million de personnes sur les routes selon l'agence humanitaire des Nations Unies OCHA. Parmi eux, d'anciens détenus de la tristement célèbre prison de Saïdania. C'est le cas de Khaled, originaire de la ville de Dera. Il tente de rejoindre à pied malgré ses blessures. Notre correspondant Mohamed Derami l'a rencontré. Reportage.
Khaled retrouve sa mère après 10 ans de détention dans les prisons de l'ancien régime syrien. Lui était incarcéré dans les geôles de Saïdnaya. L'ancien prisonnier a du mal à réaliser qu'il est rentré chez lui. Ses yeux regardent parfois dans le vide. L'homme de 40 ans témoigne de tortures continues en détention et explique avoir assisté à la mort de centaines de prisonniers durant sa détention.
Loué soit le Seigneur. On ne s'attendait pas à voir un jour la lumière du soleil, ni même à revoir nos proches. Pour nous, dans la prison de Saïdnaya, nous attendions tous le moment de la mort, pas celui de la sortie.
Khaled, 70 ans, avait également perdu tout espoir de revoir son fils unique un jour. La vieille femme a le sentiment qu'embrasser son fils n'est qu'un rêve éphémère dont elle se réveillera très bientôt.
Louange à Dieu, Seigneur, Dieu m'a amené mon fils et Dieu aidera tous les prisonniers à sortir sains et saufs. Je n'aurais jamais imaginé revoir mon fils en vie et en un seul morceau. Dieu m'a donné ce dont je rêvais et Dieu aidera toutes les personnes qui ont aidé à libérer les détenus de la torture.
Selon un rapport de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le régime de Bachar al-Assad aurait arrêté des centaines de milliers de Syriens depuis 2011, dont au moins 105 000 sont morts sous la torture. Mohamed Erami, Dera, RFI.
Et en visitant en Turquie aujourd'hui, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a appelé Ankara à ne pas laisser le groupe État islamique se reformer en Syrie. La Chine exprime sa préoccupation face à la possible instabilité dans le pays. Israël demande de son côté à son armée de se préparer à rester dans la zone tampon du plateau du Golan pendant tout l'hiver. Des signes encourageants pour un cessez-le-feu à Gaza, c'est ce qu'assure voir le ministre américain des Affaires étrangères. Anthony Blinken qui s'exprimait encore une fois depuis Ankara, optimisme affiché alors qu'une nouvelle frappe israélienne sur un bureau de poste a tué au moins 30 personnes hier soir dans l'enclave palestinienne selon le groupe djihad islamique. Une autre série de frappes avait déjà fait 58 victimes, dont des agents en charge de sécuriser les camions d'aide humanitaire. Le secteur énergétique ukrainien, lui aussi durement touché ce matin. La Russie a tiré au moins 93 missiles sur le territoire de Kiev, dont des engins hypersoniques dernière génération Kinjal, des frappes qui ont provoqué des coupures énergétiques dans de larges pans du pays, selon l'opérateur Ukrenergo, qui assure que l'évaluation des dégâts est toujours en cours. Moscou assure avoir mené ces attaques en riposte à des tirs de missiles américains attaque MS sur son territoire. Le Kremlin, qui estime par ailleurs que les conditions pour des négociations de paix ne sont toujours pas réunies. RFI, il est midi 4 à Paris, la capitale française où le tapis rouge a été installé, où la garde républicaine est arrivée à Matignon. Ne manque plus que le nom du futur Premier ministre, annonce imminente du remplaçant ou de la remplaçante de Michel Barnier. Ce matin, le président de la République Emmanuel Macron a reçu pendant près de 2 heures celui qui fait figure de favori pour le poste, François Bayrou. Victorien Villaume, vous êtes avec nous depuis le perron de Matignon, bonjour.
Bonjour Pierre, bonjour à toutes et à tous.
Et on imagine que sur place, la pression monte.
Oui, la pression monte et en même temps, on attend un peu de savoir ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Et il y a du retard, il faut s'armer de patience. Vous l'avez dit, François Bayrou était tout à l'heure reçu au Palais de l'Élysée par Emmanuel Macron. Et on nous a annoncé hier que l'annonce du nouveau Premier ministre, alors on ne sait pas encore si ce sera François Bayrou ou pas, mais cette annonce en tout cas devait être faite en matinée. Pour l'instant, comme vous le voyez, il est midi passé et toujours pas d'annonce faite par l'Élysée via un communiqué. Ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas encore un pierre sur le perron de l'Élysée. Nous sommes à l'extérieur, pas encore sur le perron de Matignon, nous sommes à l'extérieur, juste en face, sur le trottoir d'en face. Une quarantaine de journalistes comme moi sont réunis. En revanche, on sait effectivement qu'un tapis rouge a été installé et des micros également. Alors pour la petite histoire, deux micros ont été installés avec une hauteur similaire pour les deux micros, puisque les techniciens qui étaient en charge de l'installation n'étaient pas au courant du profil du futur Premier ministre et donc de sa taille. Nous ne sommes donc à attendre patiemment cette annonce, en tout cas Pierre, qui devrait intervenir, vous l'avez dit, dans les prochaines minutes ou les prochaines heures.
Et merci Victorien Villaume, et vous restez bien sûr devant Matignon, peut-être bientôt donc sur le perron pour suivre pour nous cette nomination qui s'annonce imminente. On l'a compris, Emmanuel Macron, qu'on a souvent présenté comme celui qui aime être le maître des horloges, ménage toujours son suspense. Charlotte Hurien-Domaca, bonjour.
Bonjour.
Avec nous en studio pour revenir sur cette passation qui n'en finit pas de finir. L'Élysée a fait savoir que le nom devait tomber en fin de matinée et pourtant on ne le connaît toujours pas.
Oui, alors on apprend à l'instant que l'Élysée devrait envoyer un communiqué annonçant le nom du Premier ministre avant 13h. Il est déjà 12h06 ici à Paris. Le délai est encore une fois presque écoulé puisque l'annonce devait être jeudi soir, puis vendredi d'ici la fin de matinée et toujours pas de nouveau Premier ministre. Pourtant, vous l'avez dit, tout est prêt. Michel Barnier a envoyé des messages ce matin à ses ministres pour les informer de la passation de pouvoir, mais toujours pas de nom, vous l'avez dit également. Ce matin, le maire de Pau et président du Modem, François Bayrou, était reçu par le président à l'Élysée pendant 1h45. Une entrevue dont on ne sait pas quelle a été l'issue. Doit-on en tirer la conclusion que c'était pour lui dire les raisons pour lesquelles il n'est pas choisi comme Premier ministre et lui ont montré néanmoins que c'est une marque de respect de le recevoir? Soit c'était un entretien positif et les deux ont tenté de construire peut-être les bases d'un gouvernement? Nul ne le sait, mais la classe politique dans son ensemble réagit négativement, qualifiant ce qui se passe de spectacle tragique. Tout le monde se demande ce qui se passe ici à Paris. Tous les noms précédemment évoqués restent pour l'instant sur la table, avec l'impression que le chef de l'État tâtonne et ne sait pas où il veut aller. Mais comme je vous le disais, communiqué annonçant le nom du Premier ministre avant 13h, normalement.
Et on continuera bien sûr à suivre avec vous, notamment Charlotte Hurien-Domaca, cette nomination et ses conséquences toute la journée sur RFI. En Géorgie, c'est demain que les électeurs seront appelés à choisir le ou la présidente en élection dans un contexte de manifestation massive contre le résultat des législatives qui ont reconduit le parti pro-russe Rêve géorgien au pouvoir. Les États-Unis annoncent ce vendredi interdire de visa une vingtaine de personnalités. Elles sont accusées de saper la démocratie dans le pays, parmi les personnes ciblées, des ministres, des parlementaires, mais aussi des responsables des forces de l'ordre et de la sécurité. L'opposition sud-coréenne met la pression pour destituer le président. Yoon Suk-yeol fera face à un nouveau vote du Parlement demain après sa surprenante instauration de la loi martiale. On se rappelle, c'était le 3 décembre dernier. Alors qu'une précédente tentative avait échoué il y a une semaine, 7 députés du parti au pouvoir ont assuré qu'ils voteraient le texte. Ils doivent être 8 pour faire chuter le président, le principal intéressé qui refuse pour le moment de démissionner, a une nouvelle fois promis de se battre jusqu'à la dernière minute lors d'une allocution télévisé, c'était hier. Les tensions retombent autour de l'île de Taïwan. Les autorités de l'île dissidente annoncent que les navires de guerre chinois déployés autour de son territoire étaient rentrés au port. Les gardes-côtes de Pékin menaient en effet depuis plusieurs jours un vaste exercice naval, l'un des plus importants depuis des années. 90 navires étaient mobilisés, des exercices intervenus quelques jours après la fin de la tournée du président taïwanais dans le Pacifique. Et puis une fois n'est pas coutume, un mot de l'actualité des jeux vidéo, et le jeu vidéo de l'année est japonais. Il s'appelle Astrobot du studio Team Asobi. Il a été récompensé lors des Game Awards 2024 qui se tenaient, c'était hier soir, à Los Angeles. Le jeu a été vendu à plus d'1,5 million d'exemplaires. C'est un jeu de plateforme et qui a été pensé comme un hommage au héros phare du constructeur Sony. Voilà pour ce journal. Je vous rappelle la principale actualité ou la non-actualité de ce midi, la nomination imminente du futur premier ministre en France, nomination que nous continuerons bien sûr à suivre sur les antennes de Radio France Internationale. En attendant, bonne suite des programmes à l'écoute de notre antenne.